Let's start the party. Bonjour et bienvenue à cette 13e émission de Fish and Chips. Je suis comme d'habitude accompagné de Tom Widard.
Bonsoir Jérémy. Oh, je me suis trompé de prénom. Comme quoi, la précédente émission qu'on a enregistrée, qu'on a dû recommencer.
Et du magnifique Mickaël Chantraine.
Bonsoir.
Nous sommes également en compagnie donc de Baptiste Coppens.
Oui, bonsoir.
Pardon, excuse-moi, je suis désolé.
Oui, surprise, bonsoir à tous.
Donc c'est Baptiste ou Sébastien pour savoir?
Ah ben c'est Baptiste, désolé, dédicace à mon cousin Sébastien, s'il l'entend alors.
Et donc de Caroline Enrotte.
Bonsoir.
Qui sont donc, pour préciser, Baptiste Coppens... J'allais dire encore. Baptiste Coppens, prof de morale.
Est-ce que tu veux qu'on la recommence?
Non, c'est bon, ça va. Une fois ça va, deux, pas deux. Et donc Caroline qui est prof de mathématiques.
C'est ça.
Voilà. Ben voilà, on va passer tout de suite à la question un petit peu d'actualité, puisqu'on accueille un prof de morale ici, et du coup on voulait savoir, apparemment les cours de morale vont être supprimés, annulés, et on voulait savoir du coup justement l'avis des professeurs, enfin des professeurs vis-à-vis de ça, donc aussi bien ceux qui subissent la... cette suppression, et ceux qui voient cette suppression, donc comme Caroline en tant que prof de maths, qu'est-ce que vous pourriez en penser? Voilà. Et déjà, petite précision, je ne fais que parler. Et je me demandais, je suis français, je ne sais pas c'est quoi un prof de morale. Je ne sais pas c'est quoi la morale.
Eh ben, c'est ça.
D'accord.
La morale, c'est pas se tromper de prénom d'invité déjà.
Voilà.
Bon, si, ça arrive. Ça nous arrive aussi, j'imagine que toi, Caroline, comme prof, on en a des centaines. Il nous arrive de nous tromper. Bon, alors la morale, vous avez un cours d'éducation civique, vous avez un cours de philosophie. Bah voilà, chez nous, c'est mêlé, c'est mélangé dès la première primaire, jusqu'à la sixième secondaire.
D'accord.
Nos six années de primaire, nos six années de secondaire, il y a deux heures de morale ou d'un cours confessionnel de leur choix, je veux pas dire à l'exception de, si presque à l'exception du bouddhisme et des choses comme ça qu'ils pourraient pas choisir, mais si un élève voulait un professeur de, je pense l'hindouisme, je crois que c'est possible cependant, je m'avance peut-être, mais si voilà il veut un prof de religion orthodoxe ou voilà,
d'accord.
Il peut avoir ces deux heures.
On enseigne aussi des religions, d'accord, okay,
oui un peu plus. Qui nous semblerait moins,
moins représenté,
moins traditionnel, oui, c'est ça, moins représenté que la religion catholique, par exemple.
D'accord.
Et donc voilà, deux heures de cours philosophiques, enfin, dit philosophiques, depuis le début de la scolarité effective. Et voilà, et donc on arrive globalement, enfin à la fin, à des notions de philosophie, quoi, qu'on commence surtout avec des notions d'éducation civique, de citoyenneté aussi. Mais globalement, il y a quand même la philosophie qui est insérée. Dès le début, et peut-être plus. Oui, plutôt que. En tout cas, plutôt que chez vous, on arrive très fort. Ouais. Et il n'y a pas de philosophie, par contre.
Oui, il n'y a pas de cours de philo.
Il n'y a pas de cours de philosophie.
Spécial. Oui, parce que nous, on
c'est la grosse différence.
Si je me souviens bien, en France, on a les cours d'éducation physique, mais ça, c'est au collège, donc à 11 ans, si je ne me trompe pas. Et on a la philo à côté, en fait.
Ouais.
Donc, d'accord, ok, ça va. Comme ça, je vois un peu. C'est bien, c'est cool. J'en apprends tous les jours un peu plus sur la Belgique, c'est bien.
Bienvenue.
Merci.
La bière, c'est fait, et les frites aussi.
Il a beaucoup fait la bière, déjà.
Mais donc, on va parler, du coup, les cours de morale vont être annulés, c'est ça? Si on...
Ben,
présente-nous un peu tout le...
C'est un peu plus complexe que ça, mais alors, et justement, pour que la situation et le panorama soient un peu complets, et justement, pour l'expliquer à un Français comme toi, notre système, c'est pas encore comme le vôtre. On pourrait croire, il y a des similitudes entre le public, chez vous, ou par contre, là, la laïcité, en quelque sorte, elle est... obligatoire, et l'école est presque athée, et l'école est athée, tandis que chez nous l'école officielle est justement pluraliste en quelque sorte. Si on vient dans l'école officielle, on a droit à deux heures de cours philosophiques, ou soit morale effectivement, qui est un peu considéré comme neutre ou parfois comme athée par certains, mais au final qu'il est pas... Il se retrouve des croyants au cours de morale, quoi.
D'accord.
Et ou d'autres religions. Soit. Mais tandis que dans le libre, chez nous, qui est subventionné, ce qui n'est pas le cas du privé chez vous, et ici aux hommes, on peut dire l'école,
oui,
j'imagine,
bien sûr,
oui.
Pas de problème.
Aux aumôniers du travail ou officier, enfin où travaille ma collègue, bah, eux, par contre, c'est uniquement religion catholique.
Voilà. D'accord.
Et là,
oui, il y a des écoles catholiques encore. Il y a... D'accord.
Ouais, tout à fait.
Si tu t'inscris chez
et
nous,
beaucoup,
tu n'as pas le choix de tes deux heures de philo.
De suivre le.
Voilà. C'est obligatoirement cours de religion chez nous.
D'accord, ok, ça va.
Ah oui, donc il n'y a pas la morale.
Non, on n'a pas le choix, c'est religion catholique, point barre.
Là où il était en secondaire, c'était pareil avec religion, et je voulais pas, mais j'ai dû prendre ça parce qu'il n'y avait pas le choix pour la morale. Mais c'est un choix à faire quand on choisit son école secondaire, quoi. Les parents doivent être au courant de ça, j'imagine.
Oui, bien sûr, dès l'inscription, ils le savent. Oui, évidemment.
Bah en même temps, enfin, c'est dit dans le nom de l'école, j'imagine, école catholique ou école...
C'est ça.
Enfin, je sais pas encore, je m'avance peut-être, j'en sais rien.
Et donc ça limite la mixité culturelle de l'école, non ? Par rapport aux élèves
On pourrait croire, mais en fait, on a un public qui n'est pas forcément catholique à la base, et qui viennent là, enfin, ils viennent s'inscrire chez nous principalement pour les cours à option, puisque les aumôniers, c'est une école professionnelle et technique. Donc, si tu veux faire de ton fils ou de ta fille un maçon, et qu'il n'y a pas d'autre école dans la région, eh bien, quelque part, tu es un peu obligé de subir le cours de religion, même si à la base, tu es juif ou musulman.
Donc, c'est la mixité par obligation en soi, quand on voit ça comme ça.
C'est un choix, à mon avis, avant tout un choix professionnel. Et après, bon, bah, ces deux heures-là, il faut, malheureusement, pour mes collègues profs de religion, il faut les subir. Donc, voilà. Maintenant, il y en a qui viennent par choix aussi, qui sont cathos et qui veulent absolument suivre le cours de religion. Mais principalement, chez nous, c'est un choix d'option.
D'accord.
Avant un choix philosophique.
Donc on met la religion au même titre que pour ton cas les cours de maths où c'est une étape obligatoire pour apprendre.
Il y a peut-être plus d'heures, enfin il y a peut-être moins d'heures quand même en cours de religion, j'imagine.
Mais pas forcément en professionnel, en troisième et en quatrième notamment, puisque j'enseigne là, il y a 2 heures de maths comme il y a 2 heures de religion, comme il y a 2 heures de gym, comme.
Mais moi dans une école, je vais dire classique, je sais pas quoi c'est quoi le nom pour une école, moi j'ai fait les latines, j'avais 2 heures de religion quoi, c'est pareil partout, on sait pas diminuer ça quoi.
Non, ça non.
Ok, mais pour pas que je me perde dans la question, du coup, on parle des cours de morale qui vont être supprimés. En toi, donc Bastien,
Baptiste.
Ah, tu m'as perturbé.
Je suis désolé.
J'ai dit Sébastien, puis je fais non, c'est pas ça, puis j'ai dit Bastien, c'est pas ça. Donc Baptiste. En quoi, pour toi, les cours de morale sont importants, j'imagine quand même. Donc, en quoi tu les défendrais toi dans cette situation qui te concerne ?
Bah, justement, moi venant. Au départ, j'ai toujours été dans le système officiel et tout. J'ai toujours eu des cours de morale.
Je vais le garder près de moi. Ça va. Je te remercie.
Je préfère, si tu veux, je te l'exhiberai en cas de besoin.
Mais n'exhibe pas trop de choses, s'il te plaît.
On va
faire comme en début d'année à l'école. On va chacun prendre une feuille, la plier en deux, la mettre devant soi.
C'est ça. Voilà, je me présente. Bah, comme quoi, les rôles sont inversés. C'est moi le prof qui doit écrire mon nom pour l'animateur radio. Voilà. Baptiste.
On fait tellement mal notre travail.
C'est vrai. Non. Et nous, on a des mois pour apprendre les prénoms. Vous avez quelques minutes et tout ça doit être intégré. Bon, tout ça pour dire que oui, j'étais dans un système plutôt officiel. J'ai eu cours de morale, et un peu ayant fait mes études de philo aussi. Après, j'ai continué, j'ai fait des études de philo à l'ULB, donc un cercle relativement un peu libre exaministe et un peu engagé, si on veut. J'avais tendance à croire avant d'y exercer. Que justement, j'aurais été partisan d'un cours de philosophie pour tout le monde et la fusion des réseaux, économie d'échelle, et tant pis, et qu'est-ce que c'est que ça d'offrir des profs de. Ça arrive, hein, le prof de religion protestante pour 3-4 élèves. Mmh. C'est une. Mais au final, par contre, à y être entré et pour travailler maintenant depuis quelques temps comme prof de morale, j'espère suffisamment d'années en tout cas, je me rends compte que notre système, il est vraiment. Enfin, il est assez formidable, même s'il coûte cher.
Oui, mais parce que, comme tu dis, payer un prof pour 3-4 élèves...
Ouais, c'est cher.
Ça, ouais.
Attention, il n'y a pas que dans les cours philosophiques que ça arrive. Ouais. Dans certaines écoles, il y a des cours d'informatique pour 3 élèves, ou des cours d'allemand ou d'espagnol pour 3 élèves aussi. Ouais. Donc,
mais c'est des cours d'option, enfin, comme les cours d'informatique, par exemple. On n'est pas obligé de les suivre ou...
Il n'y a pas de... Enfin, une fois qu'on choisit sa filière, on est obligé de suivre tous les cours.
Ouais, ouais.
Donc, si tu choisis une filière langue, tu peux prendre anglais, néerlandais, puis pourquoi pas allemand, espagnol, peut-être que dans ton école, tu seras le seul à choisir cette...
Ah oui, d'accord.
Donc, il y aura forcément un prof pour toi. Et, donc, il n'y a pas que sur la morale, qu'on se retrouve avec des petites classes à l'encontre. On peut se retrouver aussi avec des classes énormes, puisqu'il y a des options qui marchent super bien. Donc.
Oui. Les options plus classiques, peut-être.
Ouais. Déjà, quand tu as le choix entre, par exemple, dans mon école, il y avait néerlandais, anglais et allemand, et tu lui dis que l'anglais était rempli, qu'allemand et néerlandais, c'était un peu plus vite. Quoi.
Donc,
t'as forcément des branches qui en attirent plus que d'autres.
C'est ça.
Et du coup, pour la morale, le fait qu'on veuille supprimer ces cours-là, c'est un choix financier de la part des écoles.
Mais donc c'est pas supprimé
ou c'est un avis global des parents qui veulent plus que leurs enfants soient endoctrinés par une quelconque pensée.
Très bonne question. Mais pour une, je pense qu'en fait c'est un concours de circonstances, un concours de force. Il y a à la fois. Bon, ce qui se passe, c'est que pour une fois, notre employeur, il est victime et il subit, comme nous, les décisions de justice en réalité. Ce qui s'est passé, c'est qu'au Conseil d'État, il y a une décision de justice parce que des parents, individuellement, ont été en justice et ont saisi le Conseil d'État sur cette question pour, si vous voulez, dire que, en fait, le cours de morale n'était pas neutre, donc n'était pas la solution résiduelle ou inscrire les enfants, etc. Désormais, il était coloré, qu'il était... je sais pas vous dire exactement les termes, mais sans doute trop libre exaministe, trop engagé, quoi, donc...
Il y avait une idéologie qui plaisait pas.
Pouvait, voilà, c'est d'accord. Ça, une idéologie et qu'elle y était marquée. Donc le cours de morale pouvait pas plus être considéré comme neutre, etc. La communauté française a un peu encaissé ça, boum. Puis les événements de Charlie, etc., de tout ce qui s'est passé, les attentats, ça c'est encore une autre force, une autre chose qui vient peser dans la balance. Et en plus de ça, finalement, c'est un peu l'occasion rêvée de, tiens, ah oui, peut-être faire des économies par la suite, quitte à ce que, bon, en tout cas dans les années qui s'annoncent, la facture va être salée parce que ça fait encore un nouveau cours en plus, parce qu'il y a ici des solutions transitoires qui sont assez... qui vont être impraticables
par
chez nous. Parce que justement, la difficulté, entre autres, c'est qu'on ne pourrait pas supprimer le cours de morale aussi simplement, parce que le choix entre le cours de morale et les cours philosophiques, il s'est ancré dans la Constitution en Belgique. C'est bétonné,
dans
la Constitution, ça.
D'accord, okay.
Et donc, c'est pas comme une loi comme les autres. Pour changer la Constitution, il faut deux législatures, etc. Il faut 8 ans. Il faut être d'accord deux fois, ce qui n'est déjà pas facile une fois. Donc,
gouvernement plus d'un an.
Oui, c'est ça. Entre autres, il y a toutes ces questions qui jouent, qui font que ça va pas être si facile de supprimer ça. Donc, ce qui va probablement se passer, c'est qu'il va avoir un cours de citoyenneté. Le cours de morale sera lui aussi facultatif. Comme les autres cours philosophiques. Par contre, il y aurait un nouveau cours, mais d'une heure, tandis que les autres seraient réduits à une heure, un nouveau cours qui serait un cours de peut-être citoyenneté. Ou... On n'ose pas dire non plus philosophie parce qu'il y a des résistances et puis parce que ce serait difficile, ce qui sans doute vous a empêché en France de le faire, de vraiment donner la philosophie en primaire. Certains le disent, est-ce qu'on appelle la philosophie pour enfants, il y a des pistes pour, mais... Mais voilà, il y a différentes résistances aussi de la part de la société civile qui...
Mais du coup, est-ce que le cours de citoyenneté serait pas un cours de morale, mais juste intitulé différemment pour faire plaisir aux gens? Au final, quelle serait la différence entre la morale et la citoyenneté?
Il y a de ça, oui, bien sûr, mais moi, le danger que je vois, que peut-être la plupart de mes collègues voient, c'est que l'embêtant avec la citoyenneté, c'est que c'est un peu le cours de morale appauvri, réduit à sa plus simple expression, qui n'est plus rien qu'une espèce de... Ouais, de transmission de savoir, qui n'est plus une recherche de sens, qui n'est plus la construction ensemble d'une... Ouais, une recherche personnelle, et de voilà, c'est juste une transmission un peu de haut en bas de la citoyenneté, c'est ça, et vas-y, je t'apprends.
Oui, c'est ça.
Ce qu'on ressent dans le terme citoyenneté, c'est quand même un formatage bien davantage, en tout cas, que
concrètement,
c'est
ce que nous, on a en France, c'est cours d'éducation civique, c'est, ben voilà, vous devez voter, enfin, le vote est un droit et un devoir, voilà, enfin, c'est le genre de cours qu'on a en France. Cours sur les mariages, des trucs comme ça, enfin voilà, la bonne éducation civique, on traverse au passage clouté, enfin c'est vrai, c'est des banalités qu'on a, mais qu'on a en cours aussi obligatoire, quoi.
Vas-y. Du coup, moi j'ai aussi une question par rapport à ça, et je rebondis là-dessus, c'est est-ce que au final le cours de morale n'est pas un genre de cours de religion dans une école catholique? Parce que moi je me souviens, des profs de religion que j'ai eu, au final on voyait pas Jésus, Dieu et compagnie. Dans les dernières années on voyait Nietzsche, on voyait d'autres philosophes et tout ça, donc ouais. Est-ce que c'est au final pas à chaque fois un détournement pour faire plaisir à tout le monde, quoi? C'est...
Tout à fait, enfin, malheureusement je pense que ce que les décisions ignorent, et là t'as tout à fait raison, c'est qu'au final la fonction, en tout cas la fonction qu'exercent ou le métier que font, je pense, des bons profs, ou en tout cas les profs pas mauvais, il est assez semblable. Autant les profs de morale un peu lucides, on a tendance à pas s'écarter, mais en tout cas à avoir un regard critique sur le libre examinisme, sur la laïcité, en tout cas le centre d'action laïque en Belgique, la politique qui est menée, etc. Autant certains profs de religion j'ai énormément de respect pour tous mes collègues de différentes religions qui sont dans le degré inférieur dans mon école, l'Athénée Royale, celui de Mons 1 en l'occurrence, parce qu'ils sont vraiment terribles, chacun dans leur discipline. Ils font un métier que j'estime tout à fait semblable au mien, que je respecte, je dirais pas infiniment, ça n'a pas beaucoup de sens, mais énormément.
D'accord.
Donc oui, c'est vrai.
Mais
on va peut-être du coup.
Oui, non, vas-y, pardon. Une question peut-être pour un peu extrapoler les choses, c'est que là on parle du cours de morale qui serait peut-être jugé offensant pour certaines personnes ou même inutile pour d'autres personnes. Est-ce que pour toi, donc Caroline qui travaille en tant que prof de maths dans le professionnel, est-ce que c'est pas le genre de choses aussi qui peut arriver dans des cours comme le tien, entre guillemets, qui sont un peu peut-être parfois jugés inutiles pour un domaine professionnel, genre un carreleur, s'il n'a aucune ambition d'être patron, est-ce que pour lui ce serait vraiment important d'avoir des cours de maths? Donc est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aussi t'arriver toi en tant que prof de maths dans le professionnel, tu penses?
Oui, ça pourrait m'arriver tout à fait, sauf que ici apparemment c'est le contraire qui va se passer à partir de l'année prochaine, puisque à mon avis, dans la lignée du tronc commun qui est prévu par nos hommes politiques, on va malheureusement pour nos élèves augmenter tout ce qui est formation générale. Donc, c'est-à-dire que les pauvres...
Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par formation générale,
donc,
justement?
Donc, français, maths, et on va même leur infliger des cours de langue. Et donc, on va leur retirer ce pour quoi ils sont venus s'inscrire chez nous, c'est-à-dire l'atelier, oui. Aller travailler...
Le manuel, oui, travailler...
C'est ça. Donc... on est vraiment secoués ici, comme des pruniers, tous, que ce soit dans le livre ou dans l'officiel. Tout est en train d'être modifié. On n'en voit pas très bien le but. Et derrière ce que Baptiste disait, je vérifie son prénom hein, du coup. Derrière ce que
j'ai bien fait d'écrire. Donc,
comme Brice disait, oui.
Comme Brice disait. Derrière ça, il y a encore tous ces gens qui ont été nommés pour une certaine fonction et on va modifier leur cours. Est-ce qu'ils seront encore légalement aptes à le donner ou est-ce qu'ils ne vont pas devoir eux aussi subir des formations pour adapter le cours et, ou alors est-ce qu'ils ne vont justement pas être reclassés entre guillemets comme une vieille voiture en disant bah, écoute, on a changé ton cours et ça pourrait m'arriver aussi bien sûr en tant que prof de maths, en tant que prof de français, prof de sciences humaines, enfin on en entend des vertes et des pans de mur comme disaient mes élèves, mais voilà, on est vraiment passé à la moulinette et on même et c'est ça aussi les directions ne savent plus parce qu'ils reçoivent des circulaires, je ne vais pas dire tous les quarts d'heure, mais c'est à peu près ça. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne sait plus ce qu'on fait. Donc on rame, pour le moment on rame. Et là, voilà, le programme change l'année prochaine. Je vais passer a priori de 2h à 4h. Je ne sais toujours pas ce que je dois donner, ce que je vais faire avec mes gamins. Vers où je vais, on passe en ce qu'on appelle situation d'intégration maintenant, donc comme tu disais en effet le cours de maths en tant que tel n'a plus d'intérêt sauf que maintenant le gamin va être face à une épreuve, par exemple construire un mur en angle, enfin je m'y connais pas trop mais j'ai assisté à quelques délibés de ce genre et nous en tant que prof de cours généraux, donc français, maths langue, je ne sais pas comment ils vont les intégrer, mais français, maths, on doit être là pour poser des questions au gamin qui sera devant sa pièce. Tiens, ton angle,
combien de degrés ?
Tiens, ta surface, combien de briques au mètre carré, combien...
D'accord.
Donc, ce sont des choses que j'aurais dû avoir vues avant, mais que le gamin doit être capable de mettre en place.
Mais pour être sûr de bien comprendre, du coup, les cours de maths vont quand même rester en classe ou c'est toi qui vas devoir aller sur le terrain, entre guillemets, dans les ateliers pour accompagner les élèves?
Alors, l'idéal, évidemment, serait d'aller à l'atelier et de travailler avec eux directement, mais concrètement, c'est absolument pas possible.
Donc, donner des cours de maths dans un... Enfin, oui, non, clairement, prise de notes ou quoi.
Oui, non, c'est juste pas possible. À moins qu'ils aient tous leurs tablettes, on y arrivera peut-être un jour, mais... Voilà, concrètement, pour le moment, c'est pas possible. Oui, de temps en temps, on descend à l'atelier, on va voir les pièces, on explique. Évidemment, on parle beaucoup avec nos professeurs, nos collègues profs d'atelier, parce que ils reviennent vers moi en disant, il a dû prendre un tiers de sa planche, il n'y est pas arrivé, il faudrait peut-être que tu revoies les fractions. Donc voilà, mais du coup, quelque part, je sors de mon programme, et si je me fais inspecter un jour ou l'autre, je risque aussi de subir le courroux de la grande...
Parce que tu ne suis pas forcément le programme, et du coup,
c'est ça.
D'accord. Okay.
Pourtant, pédagogiquement parlant, c'est peut-être même plus intéressant d'être sur le terrain. Comme ça, comme tu disais avant l'émission, la question qu'on te pose souvent, c'est à quoi ça va me servir plus tard les maths. Mais là, ils ont une application directe à quoi ça va leur servir, justement.
Ah ouais, c'est évident. Hein. C'est évident, ce serait l'idéal. On essaye de plus en plus de partir de leur situation concrète. On le fait, mais ce n'est pas toujours applicable.
Ouais, y a les bases qui sont théoriques.
De toute façon.
Mais ici, en tant qu'étudiant, moi, je suis encore à l'université. Enfin, je suis plutôt en institut haute école, plus ou moins. Mais j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est qu'on voit l'enseignement qui est bouleversé, donc apparemment dans le secondaire. Est-ce que c'est aussi Marcourt qui fait ça ou c'est aussi une autre personne? Juste pour savoir si c'est le même gars.
Je ne sais pas qui a la main dans Marcourt, mais c'est une marionnette.
C'est magnifique.
Il n'y a pas que Marcourt. Pour nous, en tout cas, c'est Milké pour l'enseignement c'est secondaire. Ça, on la connaît. Elle a dépassé nos frontières, hein, sa réputation. Oui, oui. Hein,
ils sont en couple ou bien pour faire des décisions comme ça ou comment ça se passe?
Le CDH et le PS, ils ont toujours navigué côte à côte, ça, certes, mais non, ils n'ont pas. Pas besoin de ça, mais soit, allez, on va pas casser du sucre, sinon il va nous manquer du temps pour dire tout le mal qu'on pense. Parce que je pense que même si elle est dans un réseau entre guillemets parallèle au mien aussi, ma collègue partage peut-être mon avis, c'est qu'en ce moment dans l'enseignement avec les décisions qui nous tombent, ça n'a jamais été très bien en tout cas dans l'enseignement en Belgique, mais là ça va assez mal quoi. Et ben dans l'officiel tout particulièrement.
D'accord.
Parce que c'est effectivement tout ça, puis également la suppression du redoublement qui a été imposé, mais alors sans les moyens entre la première et la deuxième. Chez nous, c'est inversé hein, par rapport
oui,
à chez
eux. Oui, je sais bien. Nous, on fait deuxième première terminale et vous, c'est première deuxième.
Et ça en 2x6 ans.
Ouais.
Et donc de la première à la deuxième, ils vont passer d'office, mais il y a quand même des examens de passage. Hein, mais s'ils les ratent, c'est pas trop grave.
C'est pas grave.
Mais non, ils savent au moins où ils en sont.
D'accord.
Oui.
Ils vont
donc tous travailler pour leurs examens de passage, mais ils vont donc passer cette année. Ici, c'est que de la première à la deuxième, mais ensuite ça va se généraliser de la troisième à la quatrième, et ensuite de la cinquième à la sixième. Mais sinon, d'accord. Pour en revenir, je vais terminer.
non, il n'y a pas de souci.
Pour revenir avec les cours de morale, ce qui va passer, la situation transitoire l'année prochaine va quand même être assez comique, parce que avant que les cours de citoyenneté un peu se mettent en place, c'est que justement le cours de morale va être facultatif et puis il y aura ce fameux cours de
citoyenneté
de rien.
Ouais,
un cours de rien qui n'est pas encore le cours de citoyenneté,
c'est pas,
hein,
ça,
pas exactement, mais enfin c'est censé servir de banc d'essai entre guillemets, tant qu'à faire, profitons-en, de banc d'essai pour le cours de citoyenneté et tout ça, ce qui va être quand même assez complexe. Ça, donc c'est pas encore la situation finale, donc l'année prochaine c'est le bazar dans tous les cas, parce qu'il vient s'y ajouter en plus la réforme des titres et fonctions. Grosse matière syndicale, ou alors justement on va aussi tout changer, puis ce dont tu parlais, l'intégration, donc ça y est, il va y avoir des grandes réformes. Alors que finalement avec le système d'antan, justement pour terminer le propos que je disais tantôt, au final à le pratiquer, le système, notre système, il est pas si mal, même s'il coûte cher, mais enfin si l'éducation coûte cher et si l'ignorance, je pense que c'était Lincoln qui le disait, mais il faut être prudent avec les citations de Lincoln, que vous le savez sans doute, mais voilà, si l'éducation coûte cher et si l'ignorance, on peut se réjouir d'un système qui est peut-être un peu onéreux, mais qui au final rend des bénéfices extraordinaires, puisqu'ici, notre système, il ménageait la chèvre et le chou. Tandis que ce à quoi on va arriver, j'ai quand même des craintes vis-à-vis de ça, quoi. On va sans doute appauvrir la chose.
Et concrètement...
Michael, s'il te plaît. On est en présence de deux profs et c'est la seule fois que tu n'as pas la main pour parler.
Non mais bravo.
Voilà, maintenant tu peux parler.
Vas-y, fais mon toi. Mais concrètement pour toi, quand il y aura les cours de citoyenneté ou les cours de rien, tout ça, est-ce que, en tant que prof de morale avec ce titre-là, est-ce que tu vas être, toi, en droit de donner ce cours-là? Ou est-ce que tu risques d'être viré pour qu'ils engagent des gens qui ont été formés pour ce cours-là? Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là?
C'est toute la question, oui. Et ma collègue Caroline le disait bien, il va avoir, c'est le cas dans nos cours aussi, tous ces profs qui éventuellement vont perdre leur job parce qu'on va réformer la chose, qu'on considérera qu'ils n'ont plus les titres requis. Alors, fut un temps, on aurait pu sembler que justement, nous, au contraire, on devait passer à la trappe puisqu'on avait décidé que, justement, on était plus neutre. Donc, que nous, les profs de morale, comme on a décidé qu'on était engagé et trop engagé par rapport au cours, qui devait être un peu la solution résiduelle pour tous ceux qui ne se déclaraient pas d'une confession quelconque, il y aurait pas de raison qu'on donne en priorité les cours de citoyenneté puisqu'on est tout aussi coloré entre guillemets qu'un prof de religion catholique ou de religion musulmane. Bon, on aurait tendance à considérer que de par notre formation, on serait un peu prioritaire. Mais
quand même, au final,
pour l'instant, c'est vraiment le flou vis-à-vis de ça, le flou complet. Donc on verra comment ça va se passer.
Ok.
C'est des pronostics, quoi. C'est des pronostics.
Non, pas de souci. Bah oui, c'est bien qu'on présente un peu des problèmes. Enfin, c'est vrai que on n'a pas forcément l'habitude d'accueillir des j'ai envie de dire des gens avec des vrais boulots.
Des gens sérieux.
Voilà.
Comme les gens, c'est pas un vrai métier.
Non, c'est pas un vrai métier.
Il y a beaucoup d'artistes. Mais...
On est pas tous sérieux. Hein. Alors justement, détendre un peu votre émission, je propose que Caroline dise un truc qu'elle fait qui est pas du tout sérieux. Moi, vous savez peut-être aussi que j'ai des trucs pas sérieux.
Pour la deuxième partie.
Ouais,
Pardon.
Pas de spoiler.
On va détendre l'atmosphère avec une petite. Sauf si t'as encore une question.
Non, mais c'était juste pour dire que. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir des profs parce qu'on est quand même une radio pour une université, donc qui a plus un public cible, plus jeune.
Étudiant.
À mon avis, ils vous doivent des nuits blanches, mais à n'en plus compter.
Je
points cassés contre
le mur. Je prends très mal.
Je crois quand même qu'on déteste davantage la prof de maths plutôt que le prof de morale, mais c'est mon point de vue.
Mais déjà arrivé d'avoir des examens de passage. Cette année-ci, pas. Mais...
C'est bien aussi de dire que. Mais je pense que si c'est la chanson qui suit. Geoffrey, c'est bien ça.
Oui, la donc chanson qui arrive, c'est la sécurité d'emploi.
Ouais.
Donc c'est bien aussi de dire aussi que les profs, on pense souvent que ouais, c'est tranquille, ils ont 2 mois de vacances,
mais au final,
au niveau de la gestion de leur boulot, c'est quand même pas facile quoi.
Et ayant des parents profs, la sécurité de l'emploi de Fatal Picard, c'est tellement une chanson qui elle est géniale.
Comme ça, on arrêtera de dire « Ouais, mais de toute façon, voilà, comme tu disais, Mike, vous avez 2 mois de vacances. »
Vous êtes même pas bronzé, quoi.
En fait,
spoiler sur la chanson.
Spoiler.
Donc, pour détendre un petit peu l'atmosphère, on va écouter « La sécurité de l'emploi des Fatal Picard », voilà, comme on l'a annoncé. Don't forget Taco Tuesday's coming next week. Eh ben non, ça sera The Lego Movie, Sing Along, Everything is Awesome. Après ce magnifique fail musical que je vous ai...
J'adore les Fatal Picard, c'est vraiment bien quand
c'est
même.
Bien, n'est-ce pas ? Oui, avant de passer du coup à la question un peu plus perso ou détendue, il y a Flo qui voulait faire un petit mot.
Petite anecdote.
Ah, c'est... Bah, vas-y, je t'en prie.
C'est l'anecdote du photographe. Mais
le mec, il se jingle lui-même, tu vois. Ouais,
à moins qu'on peut profiter de la voix charmante de quelqu'un qui veut me faire son jingle.
Peux-tu dire, Caroline, sensuellement, c'est l'anecdote du photographe.
C'est l'anecdote du photographe.
Putain, t'as jamais j'adore. Aussi bien présenté, ouais, mon gars.
Je crois que je vais imposer ça à chaque anecdote. oui, non, j'interviens avant que ce soit un peu moins sérieux. Parce que mon anecdote, c'est par rapport à ce que j'ai entendu par rapport à des jeunes de maintenant. Alors oui, j'ai été un sale petit con pendant toutes mes années de scolarité.
Tu
je crois que
changé.
j'ai accumulé un nombre de retenues incalculable. J'ai très mal étudié pendant toute ma scolarité, je l'avoue. Et je le regrette profondément. Et maintenant, quand j'entends des enfants dire certaines choses, par exemple, je prends le cas, ma copine est prof de français, elle a donné cours ici la semaine passée, et l'enfant à qui elle donnait cours avait des difficultés en français. Et elle lui a appris donc tout le panel de français, la conjugaison, la grammaire et compagnie. Et il vient un moment arrive la question fatidique, au bout d'une semaine, il en a marre, il a bouffé du français toute la semaine, il en a marre, et il pose cette question... Ouais, mais ne fût-ce, de toute manière, on n'utilise plus ça hein, maintenant. Et donc, oui, cette question, c'est inutile, quoi. Pour eux, c'est inutile, mais les gosses, et c'est pareil en maths par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ouais, mais madame, moi je ferai jamais A plus B égale C, quoi. Oui, on a envie de répondre ça aux enfants, oui, vous utiliserez peut-être pas ça, mais vous avez besoin d'apprendre ces bases, car vous savez pas. À quoi vous allez arriver plus tard. Je veux dire, oui, tu vas peut-être pas utiliser ça, mais si tu deviens patron d'une entreprise, bah forcément, les maths, ça va être utile. Si tu deviens écrivain, bah forcément, le français va être utile, mais dans tous les cas, tu dois apprendre ça. Et c'est ça qui fait qu'on se développe aussi, et que je regrette fortement de ne pas avoir eu cette intelligence de me dire ça auparavant moi-même. Et j'espère que si des enfants, ou même des étudiants qui se disent « Ouais, mais... de toute manière, ce qu'on voit en première à l'université, ça ne nous est pas utile hein, pour plus tard. Ben, si ça veut vous être utile, réfléchissez un peu plus loin, s'il vous plaît.
Déjà, ne fût-ce que pour pas passer dans l'anecdote du photographe.
Oui, voilà, s'il vous plaît. Quoi. Si vous voulez pas devenir artiste, s'il vous plaît, étudiez.
On va se calmer.
Donc voilà, c'était mon anecdote, un peu coup de gueule comme ça.
Un peu engagé aussi.
Et vous voyez, il a déjà un avis de vieux con, pourtant il est pas
Mais donc non, oui, on voulait parler avant de passer à la deuxième partie de l'émission, qui est donc un peu plus détendue. C'était Mickaël qui voulait relever ce point-là. Donc est-ce que tu veux la poser toi-même ou pas ?
Oui, mais donc moi j'ai commencé des études d'éducateur et je me rends compte que il y a beaucoup d'enfants à l'heure actuelle qui sont peut-être moins suivis par les parents. On va pas aller plus loin on va pas tomber dans le jugement ou quoi que ce soit. Mais ils bouffent du YouTube. J'ai fait un Time's Up avec eux, il n'y avait que des noms de youtubeurs, ils utilisent des grossièretés à longueur de journée, les parents ne les reprennent pas, et après on en veut quand même aux profs, qu'à l'époque, à mon époque, ça c'est vraiment une réflexion de vieux con, et moi je me souviens, c'est quand je rentrais à la maison avec une punition, mais je la faisais x2 parce que j'avais été puni, était hors
déjà,
de question.
Déjà pour moi, moi j'ai quitté les secondaires il y a 5 ans, déjà pour moi c'était déjà pas le cas, quoi. C'est vraiment, en très peu de temps, c'est avec l'émergence d'internet je pense, c'est mon avis, c'est avec tout ça, toute la parole qui a été démocratisée, aussi bien bonne que mauvaise, ça arrive souvent.
Je voulais juste soulever le point de parfois, il y a des profs qui se retrouvent devant des élèves qui n'ont pas envie d'être là. Qui ne sont pas motivés ni dans l'école ni à l'extérieur par les parents, par les amis, enfin quoi que ce soit, et que c'est pas toujours. Enfin, je voulais l'avis de Caroline là-dessus sur le fait d'avoir des élèves un peu livrés à eux-mêmes au quotidien et devraient être confrontés à une structure aussi rigide que l'école où ils doivent apprendre, ils sont obligés d'y aller.
Mais c'est-à-dire que nous, on sert de papa-maman aussi. C'est-à-dire que c'est un lapsus qui arrive régulièrement, surtout avec les petits. C'est pas madame, c'est maman tout d'un coup, parce que on est là, on les écoute et on travaille avec eux. Ça arrive assez régulièrement, plus chez les grands évidemment, mais quand on a des classes de première ou seconde, c'est souvent maman. Et on nous demande beaucoup. On nous demande tout d'abord, pendant une ou deux heures de cours, d'être capable de tenir votre fils assis parce que ils n'ont pas appris à s'asseoir pendant plus de 5 minutes. Je suppose qu'en général on mange plus à table, on mange devant la télé ou devant sa tablette ou devant son son super GSM dont je ne citerai pas la marque. Mais voilà, déjà le premier challenge, c'est arriver en classe et s'asseoir, et au moins, même si tu bosses pas, respecter la personne que tu as à côté ou respecter la personne que tu as en face. Et ça, c'est déjà très très difficile. Donc je vais dire que, en tout cas aux aumôniers, je pense qu'à l'atelier ça ne se passe pas comme ça.
Moins, je suppose.
Et je veux dire, ça prend dans certaines classes, ça prend un mois pour
est-ce qu'ils écoutent
avant d'ouvrir juste le cours de maths, on va passer parfois c'est très rapide, ça dépend des classes et des niveaux, mais parfois c'est un mois où on s'assied, on se tait, on n'interrompt pas son camarade quand il parle, on n'interrompt pas madame quand elle parle, et voilà, c'est vraiment les règles de base qui ne sont plus là. Et en effet, moi je dois dire, j'ai plus trop de problèmes avec les parents, parce que dans le professionnel on les voit même plus. Donc réunion de parents, je suis là deux heures dans ma classe, j'attends. Je vois les élèves de technique, les parents des élèves de technique, pour qui ça va bien. Parce qu'ils ont quand même un petit doute, est-ce que ça va quand même aller? Est-ce que s'il veut faire des études d'ingénieur après, est-ce qu'il pourra faire une passerelle, machin? Oui, ça va aller, ton fils, il est bien. Mais par contre, ceux chez qui ça ne va pas et où il y a des rapports disciplinaires et où parfois ça va jusqu'à l'exclusion, mais ces parents-là, on ne les voit pas. On se demande même parfois, c'est exactement ce que tu disais, Michael, c'est est-ce qu'ils ont des parents? Enfin, c'est juste ça, c'est hallucinant, c'est affolant. Donc,
Moi, du coup, allez, c'est l'instant coup de gueule. Alors moi aussi, je fais le coup de gueule.
Ah, mais c'est toujours le coup de gueule, on va pas s'en sortir ici, hein.
Mon frère et ma mère sont instituteurs aussi en France, et c'est mon frère. Enfin, du coup, j'ai plus cette expérience-ci parce qu'il nous l'a raconté assez récemment. Il était instit à Longwy. Donc en France, Longwy, c'est un coin un peu, pas super.
Près de Metz.
C'est pas loin de Metz, et c'est au niveau scolaire, c'est pas tip top. Enfin, des classes un peu difficiles. Et le pire, c'est qu'on reproche aux instits de ne pas éduquer les enfants. Mais c'est pas aux profs d'éduquer les enfants.
En tout cas, on n'est pas formé pour ça.
Ben, c'est ça. Déjà, ça fait pour certains parents, l'école, c'est la garderie, quoi. Bon, ben voilà, on met le gamin à l'école, on s'en fout, on vient le récupérer 2 heures après la fin des cours, on s'en fout. Enfin, il y a pas de. C'est mon frère, il me racontait ça, et je trouve ça assez incroyable. Après, je sais pas comment ça se passe dans des écoles peut-être un peu, où les familles sont un peu moins défavorisées, j'ai envie de dire, mais.
Ça me tend la perche, c'est-à-dire que à l'Athénée, justement, on a un public un peu différent des aumôniers du travail, pour le dire gentiment. Et là, on assiste quand même à ce phénomène, à peu près à ce phénomène, quoique il y a une différence, c'est qu'effectivement, toi, comme tu le disais, là, les parents, ils sont à ce point désengagés et à ce point mal éduqués eux-mêmes, pour ainsi dire, ils ne viennent même plus, ils se désintéressent complètement. Chez nous, c'est encore, je veux dire, le niveau un peu avant, ce qui est évidemment beaucoup plus chiant pour les profs et la direction, puisque là, les parents très mal éduqués ne suivent pas les enfants, en fait, lorsqu'il faudrait. Oui. Mais par contre, débarquent, viennent vous insulter, viennent contester votre truc, il m'a dit que, et donc là, on voit les parents débarquer, mal se comporter, souvent plus mal encore que leur enfant, et donc, et là, on est confronté à ce problème-là. Mais au moins, quand même, il y a un rapport, et quelquefois, parfois, moyen de justement quand même réapprendre aux parents, quitte à justement à trianguler. Quand on triangule un peu la vérité, souvent, ça parvient à ranger pas mal de choses. Mais donc, oui, parfois, on les voit, mais encore pas toujours. Il y a quand même ces phénomènes-là qui sont assez
présents,
assez nets. Oui,
à vous entendre, j'ai beaucoup de chance. Quand même, moi, je fais d'une école, j'étais en latin grec dans une école ultra stricte, donc moi j'ai jamais eu de problème comme ça. Tout ce que vous me dites, je suis en mode ça existe vraiment. Bah, faut croire que...
Sur ce, on va se détendre un petit peu,
une toute dernière chose vis-à-vis de ça. Ce qu'il provient, c'est que ma collègue, Elle, finalement, des profs de citoyenneté, on l'est tous un petit peu d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est un peu ridicule de faire un cours de citoyenneté particulièrement, parce que la citoyenneté, ne serait-ce qu'en apprenant justement à s'asseoir, c'est-à-dire on est tous des profs de citoyenneté. Donc nous, par contre, on n'est peut-être pas tous des profs de morale au sens à interroger philosophiquement ou justement professeur de religion. Là, on n'a peut-être pas tous la compétence, mais la citoyenneté, j'espère que tous les profs pas mauvais en font passer un petit peu dans leur cours, quoi. Voilà,
d'accord,
je voulais juste conclure là-dessus.
Non, mais c'est très bien. Du coup, pour marquer le moment où on va arriver dans un petit instant détente, on va écouter la magnifique voix de Sylvie.
UFM 106.9.
Merci voilà. Sylvie.
Moi je vote, je vote Caroline quand même.
Oui c'est vrai.
Elle, il faudrait qu'elle le dise, vous devriez l'enregistrer pour les prochaines émissions.
Oui, avant que ma voix ne soit trop cassée par la rentrée, où j'aurais dû trop crier « Kevin !»
On ferait une version spéciale rentrée où elle a la voix cassée. Voilà. Vous écoutez, USN.
Sur ce, donc, pour se détendre un petit peu, on va parler des, encore une fois, des élèves.
Qu'il faut savoir que bon... On a déjà eu ici des élèves qui sont venus un peu, enfin des jeunes qui ont parlé un peu de leurs pires profs, leurs pires souvenirs. Mais ce qu'on se demande jamais, c'est un peu pour les profs, quels ont été leurs pires élèves, leurs pires expériences.
Ou les meilleurs
ou
souvenirs.
Ou les meilleurs en souvenirs. Classe.
C'est souvent les meilleurs.
Vous n'êtes pas obligé de citer des noms.
Ah, heureusement. Parce qu'ils s'appellent tous Kevin.
Benjamin, tu commences.
J'ai vraiment utilisé mon angle pour rien. Ah non, enfin pas vraiment. Ça lui donne chaque fois une perche pour l'humour. Pour changer mon prénom. C'est difficile de tout raconter. Hein, mais bon, allez, peut-être ici récemment, j'en ai une pas mal. Et je dis avant toute chose que moi, justement, quand il y a particulièrement des bêtises qui se produisent, moi, j'ai un trophée que j'appelle la clinche d'argent. En fait, il y a une demi-clinche parce que ma porte a été en panne, pour ainsi dire, à un moment. Donc, j'ai une demi-clinche qui est la clinche d'argent et que je décerne à l'élève qui me sort quand même une perle. Il peut la garder une semaine, un peu comme la Coupe du Monde, et il la rend après. Et j'ai un palmarès parce que tellement ça m'a marqué.
C'est un bonnet d'âne revisité, en fait.
En quelque sorte, oui. Voilà. Mais c'est quand même plus tranquille que le bonnet d'âne. Humiliant que le bonnet d'âne. J'espère que t'en conviendras
c'est
comme
sûr.
Moi.
Oui, non, quand même.
C'est la clinche d'argent. Et ici, assez récemment, dans une classe de deuxième, et bon élève, hein, peu importe, ça n'empêche pas. Et je parlais de la Belgique, on faisait, on analysait des caricatures de Pierre Kroll, et je voyais un peu les différentes. Ces différentes caricatures qui montraient chaque fois la Belgique sous un jour différent. Et par le sujet, par ce biais-là, on parlait de la Belgique qui a un peu appartenu à pas mal de pays. J'essaie de faire un peu deviner aux élèves. Souvent, ils savent, oui, la France, on est tout près. L'Allemagne, ou si on veut, durant les guerres.
Un petit bout, ouais.
Oui, c'est ça. L'Autriche, ça, souvent, ils savent pas, etc. L'Espagne, et alors, justement, l'Espagne, ça, ils me le disent. Bravo, l'Espagne, ah, bon. Bien, je dis oui, tout à fait. C'est ça. Et une élève à ce moment-là, le veston doigt, il dit monsieur, à ce moment-là, il faisait chaud en Belgique. Ah, je dis
parce que ça appartenait à l'Espagne.
Ouais, c'est ça, oui. Donc à ce moment-là, ce charlequin.
La température moyenne avait.
Voilà, il y avait 5 degrés de plus en Belgique, sans doute, puisque.
Et en tant que prof, comment tu réagis? Tu ris ou tu
ris? Ah, là, sérieux justement, non, là quand même, là, c'est trop fort. Comment je pourrais m'empêcher de rire alors que pas mal de la classe se bidonne, parce que je suis quand même pas le seul à avoir réalisé que c'était quand même une énormité.
Question, voilà.
Donc non, là, c'est trop fort, hein, je suis désolé, on peut exercer son. Il faut avoir quand même du plaisir à exercer son métier. Donc, non. Et puis il y a un homme qui décerne des clinches d'argent et ne reste pas stoïque quand on lui donne ça. Donc j'ai ri, j'ai félicité. C'était pas pour me moquer, mais tout ça, mais c'était marrant.
Pour rester dans le thème de l'Espagne, j'ai une amie qui m'a raconté qui est prof de langue. Julie, je te fais coucou.
Bonjour Julie.
Comment tu vas?
Qui m'a dit qu'elle avait eu les élèves se présentant en début d'année, et il y a une élève qui dit donc nationalité, elle dit je suis belgo-espagnol. Et un autre qui lui dit ah ouais t'es né à la frontière alors.
Ah ouais, formidable,
c'est beau aussi.
Ah ouais, beau lien. Caroline, peut-être.
J'en ai des tas. D'ailleurs, pour se détendre avec mes collègues, on a commencé un bouquin. D'ailleurs, tu t'en souviens?
Ouais.
On avait déjà. On faisait, je crois que ça devait être en troisième, un petit problème qui déboucherait sur. Un graphique, mais vraiment tout léger, hein, on va pas trop se prendre la tête, mais il faut d'abord lire le problème ensemble, bien sûr, et le début de la phrase, c'était monsieur, je ne sais plus comment, fait son jogging hebdomadaire et on a relevé ses pulsations cardiaques. Bon. Et là, grand blanc dans la classe, hein, on va décortiquer peut-être, on va regarder les mots qu'on comprend pas. Jogging, ça va pour tout le monde, ouais, ok. Hebdomadaire, peut-être. Ouais. Ah ouais, hebdomadaire, là, évidemment, je pose la question, silence total. Puis j'envoie un qui discute avec son camarade et je dis, ouf, il y en a un qui connaît la réponse, je l'interroge. Dame, c'est un animal, mais je sais plus si c'est une ou deux bosses. Donc oui. Voilà, et là je ne ris pas. Là je ne ris pas.
Tu me racontais aussi, à l'époque, tu avais un collègue qui passait tous les matins pour te faire une contrepétrie juste avant que tu prennes le cours.
Oui, mais ça tombe bien parce que les élèves ne comprennent pas ça. Ouais. Donc en général, il arrivait en classe, il disait « Salut Patrick !» Et puis il sortait. Et puis les élèves me demandaient « Mais madame, vous appelez pas Patrick. Non, je m'appelle pas Patrick, mais je peux pas t'expliquer, c'est pas propre.
Voilà. Et nous, il y avait aussi un truc quand on était étudiant, quand j'étais étudiant en secondaire, il y avait un truc que vous avez peut-être subi, c'était sur Facebook, c'était les 100 blagues à faire en classe. Et donc, on devait faire ça en classe, c'était de se faire griller par le prof, mais sans qu'ils comprennent pourquoi. Donc nous, on faisait avec notre prof, c'était genre la 40e, je sais plus quoi, c'était on fixe tous le coin d'un mur, mais on fait que ça. Et du coup, il y a un moment où toute la classe regardait le...
Je te remercie de donner des idées pareilles. Hein, c'est
alors,
sympa.
Quelque chose qui est terrible aussi pour le prof, c'est que tous les élèves regardaient le front du prof. Donc t'as le prof qui sait pas... Il voit qu'on le regarde dans les yeux, donc à chaque fois qu'il touchait le front pour voir s'il y avait pas quelque chose, on devait tous faire... Comme ça, et ça durait dur. Donc je me tapais sur le front.
Ça, j'ai pas eu droit à ça. Non.
Et donc plein de choses comme ça. Et aussi le coup qui a été, le truc qui a inspiré les 100 blagues à faire. C'est le mec qui en classe fait je suis Batman, Gotham a besoin de moi. Il part de la classe en courant avec un costume de Batman en dessous de lui. Enfin, il y avait un tas de choses où quand on criait le mot autruche, tout le monde devait se mettre en dessous du banc. Enfin.
Mais ça, c'est des légendes urbaines d'école, j'imagine.
Non, ça, moi, j'en ai, sur les sols, j'en ai des faits dans
les profs, ouais, pas beaucoup. Mais le truc de Batman ou je sais pas quoi.
Oui, non, mais ça, il y a des vidéos de ça.
Il y a des vidéos d'un gars en Superman, ouais. Il y a son téléphone qui sonne en classe dans un auditoire aux États-Unis. Donc le prof arrête son cours et le mec se lève, il fait allô ? Quoi ? Mon dieu, j'arrive tout de suite. Il claque le téléphone par terre, il déchire ses vêtements, il est habillé en Superman en dessous et il sort de l'auditoire.
Ça, c'est drôle.
Mais c'est bien parce que c'est gratuit, quoi. Ça se moque de personne. Ouais, voilà.
J'ai une seconde anecdote par rapport à ce qu'il disait avec les perles des élèves. Et là, c'était en 6ème, c'est une vraie anecdote, c'est à mourir, quoi. On est en cours de français. Et là, on commence à discuter de la littérature et compagnie. Et notre prof écrit sur le tableau Notre-Dame de Paris, le bossu Notre-Dame et compagnie. Et elle se retourne vers la classe. Et je m'y attendais à la question, c'est qui a écrit donc le bossu Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Et je me retiens. Enfin, elle regarde les élèves qui savent la réponse. Je me retiens et qui lève timidement la main. Bien sûr, on s'attend tout de suite à cette réponse. Et elle regarde et fait Walt Disney. Alors, ouais. Bien sûr, toute la classe se marre, mais c'est pas là que c'est le plus drôle. C'est qu'elle fait... Bien sûr, la prof s'y attendait, quoi. Elle rigole, elle fait « Mais non, c'est Victor Hugo !» Et elle le note sur le tableau. Et là, cet élève relève la main et dit « Non, mais madame, Victor Hugo, c'est pas celui qui a découvert l'Amérique ?»
Oh là
et là, petit moment de solitude, quoi.
Ma mère, il paraît, une fois, c'est elle posait la question à un de ses... Donc, ma mère est prof, était prof de religion et l'histoire, et à un moment elle a posé la question à ses élèves, ça a été qui a marché le premier sur la lune. Et t'as un élève qui lève la main et qui fait bah c'est Tintin, ouais. Et c'est vrai. Le problème c'est que ma mère m'a expliqué que quand elle lui a dit non c'est pas lui, il a fondu en larmes.
Oh, ça y est.
Bon, c'était en primaire, mais il a fondu en larmes, il avait 10 ans, mais il a fondu en larmes parce que ce n'était pas Tintin.
Ce sera sa pire prof,
c'est ouais. Ça. Nous, on devait placer des mots bizarres dans les phrases, mais ça devait passer
oui,
ça super
aussi,
nickel
oui.
Dans la... Voilà, c'est l'anecdote que j'avais d'école, parce que j'ai une enfance difficile.
Et je crois qu'il est grand temps, parce que tous nos fans estoniens, cette fois, nous la réclament, et c'est la chronique de Michael Champagne.
Ah. Ouais, faudrait faire un jingle, parce que je sais jamais comment commencer.
Caroline.
Bon, bah j'y retourne. La chronique de Michael Chantraine.
On enregistre ça, on garde ça, c'est magnifique.
Il faudrait peut-être qu'on invente la clinche d'or pour quand vous bafouillez.
Quand on bafouille.
Donc quand on bafouille, on se la
alors filera. Du coup, je vais la garder tout le temps, la clinche d'or.
Mais t'es compète, toi. Ça.
Il est trop sportif, je crois.
Alors cette semaine, c'est juste une petite chronique, c'est une toute petite histoire. Bon, je l'annonce direct, c'est une légende urbaine. Je pense que l'histoire a eu lieu. Peut-être pas dans les termes dans
un
lesquels...
Un jour, j'aurai une copine, c'est vrai. C'est une légende urbaine. Un jour, il a une copine.
Et on va créer aussi le truc... Quand, à chaque fois que quelqu'un m'interrompt, il reçoit une décharge électrique.
Une décharge
électrique. Une catastrophe, je sais pas.
Je serai le John Coffee de la radio.
Donc, c'est une légende urbaine. Ça ne s'est pas passé dans les termes, parce que l'histoire a amplifié avec le temps. Mais je pense que la base est vraie. Et donc, je vous laissais le... Ouh là là, Geoffrey, tu...
Non mais je suis concentré.
Je suis fan.
Ah oui, non.
Je vous dirai de qui ça parle après parce que de toute façon c'est dedans. Donc je vous lis le truc et parce que j'adore la façon de penser de cet étudiant. Donc j'ai reçu un coup de fil d'un collègue à propos d'un étudiant. Il estimait qu'il devait donner un zéro à une question de physique alors que l'étudiant réclamait 20.
Ah oui.
Le professeur et l'étudiant se mirent d'accord pour choisir un arbitre impartial. Je fus choisi. Je lus la question de l'examen. Montrer comment il est possible de déterminer la hauteur d'un immeuble à l'aide d'un baromètre. Donc l'étudiant avait répondu, on prend le baromètre, on va en haut de l'immeuble, on l'attache à une corde, on fait glisser jusqu'au sol, on remonte et on mesure la taille de la corde. L'étudiant avait raison vu qu'il avait répondu juste au et complètement à la question. D'un autre côté, je ne pouvais pas lui mettre ses points. Dans ce cas, il aurait reçu son grade de physique alors qu'il n'avait pas montré de connaissances en physique. J'ai proposé de lui donner une autre chance. Et donc en lui donnant 6 minutes pour répondre à la question avec l'avertissement que pour la réponse, il devait utiliser ses connaissances en physique. Après 5 minutes, il m'a encore rien écrit. Je lui ai demandé s'il voulait abandonner, mais il me répondit qu'il avait beaucoup de réponses pour ce problème et qu'il cherchait la meilleure d'entre elles. Donc je me suis excusé de l'avoir interrompu, je lui ai demandé de continuer. Dans la minute qui suivit, il se hâta de me répondre. On place le baromètre à la hauteur du toit, on le laisse tomber en mesurant son temps de chute avec un chronomètre. Ensuite, on utilise la formule, Caroline va acquiescer, donc x égale g fois t au carré sur 2, et on trouve la hauteur de l'immeuble. À ce moment, j'ai demandé à mon collègue s'il voulait abandonner. Il me répondit par l'affirmative et donna presque 20 à l'étudiant. En quittant son bureau, j'ai appelé l'étudiant, car il avait dit qu'il avait plusieurs solutions à ce problème. Eh bien, dit-il, il y a plusieurs façons de calculer la hauteur d'un immeuble avec un baromètre. Par exemple, on le place en dehors lorsqu'il a du soleil, on mesure la hauteur du baromètre, la longueur de son ombre et la longueur de l'ombre de l'immeuble. Ensuite, avec un simple calcul de proportion, on trouve la hauteur de l'immeuble.
La solution d'Ératosthène pour calculer.
Ouais, ouais, entre autres.
Le diamètre de la Terre. Ouais. De la Terre.
Donc, bien, lui répondis-je, et les autres. Alors, il y a une méthode assez basique que vous allez apprécier. On monte les étages avec un baromètre et en même temps, on marque la longueur du baromètre sur le mur. En comptant le nombre de traits, on a la hauteur de l'immeuble en longueur de baromètre. C'est une méthode très directe. Bien sûr, si vous voulez une méthode plus sophistiquée, vous pouvez prendre le baromètre, pendre le baromètre à une corde, le faire balancer comme un pendule et déterminer la valeur de G au niveau de la rue et au niveau du toit. À partir de la différence de G, la hauteur de l'immeuble peut être calculée. De la même façon, on l'attache à une grande corde et en étant sur le toit, on la laisse descendre juste au-dessus du sol et on le fait se balancer. Mmh. Et en calculant le temps d'oscillation, on peut déterminer la hauteur de l'immeuble. Mmh. Il y a encore d'autres façons de résoudre ce problème. Probablement la meilleure est d'aller au sous-sol, frapper à la porte du concierge et lui dire « J'ai pour vous un superbe baromètre si vous voulez bien me dire la hauteur de l'immeuble. » J'ai ensuite demandé à l'étudiant s'il connaissait la réponse que j'attendais. Il a admis que oui, mais il en avait marre que l'université, les professeurs qui essaient de lui apprendre comment il devait penser.
C'est beau.
Et ça, ce mec-là, c'est Bohr, qui a reçu le prix Nobel de physique en 1922.
Mais justement, ça, parce que je vois d'où tu tires ta...
Oui,
ta
c'est chronique. Encore y penser.
Ben voilà. Oui, on l'a mis un jour, on est obligé.
Je crois qu'il l'a dit que c'était sûrement pas produit, en fait, apparemment.
Mais le... Parce que ici, donc sur Wikipédia, j'ai repris l'histoire sur Wikipédia pour ne pas noter directement de la vidéo.
C'est chiant de l'écrire.
Ils disent que l'histoire a été grossie avec le temps. J'imagine que d'autres solutions ont été ajoutées avec le temps et tout ça. Par contre, la légende dit que le prof qui était choisi comme arbitre, c'était Rutherford.
Rutherford.
Ouais. Putain, tu le
en
dis
français,
bien.
Ouais.
mais ça, c'est pas vrai, parce que Bohr et Rutherford se sont rencontrés plus tard et ont travaillé ensemble, mais c'était beaucoup plus tard, c'était pas à l'école. Donc ça, cette partie-là avec Rutherford...
Et faux.
Rutherford. Ça, c'est faux. Ça, on sait que c'est faux.
Rutherford's
mais pour le reste, je pense que c'est parti d'un truc vrai, mais juste, j'aime bien l'idée
ouais,
de l'étudiant
la manière
de pouvoir
penser,
d'avoir assez d'intelligence pour pouvoir trouver plusieurs solutions et de dire « Ouais, mais j'ai pas envie qu'on me dise comment penser. » J'ai pas envie, parce que bon, pour ceux qui se demandent encore quelle était la vraie réponse, fallait juste calculer la différence de pression au sol et à l'étage. Donc voilà. Donc je comble.
Nous sommes en pleine discussion. En fait, Geoffrey, ayons le débat à l'antenne. Il nous reste 6 minutes d'émission.
Bah, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse le salut des invités.
Bah,
on serre la main tout ça pour on met une musique. Moi, c'est ce que j'allais te proposer.
Bah, ok, d'accord.
On peut parler des actus parce qu'ils ne sont
on
pas
peut parler
que
de...
profs.
Ben non,
voilà,
il y a pas
savoir.
Que. Voilà.
Donc, on va parler un peu de vous maintenant parce que vous faites peut-être autre chose que comme
Jean-Michel.
Non, un nom à Guy B.
Baudouin.
Alors mon prénom c'est Baptiste, oui, j'en profite pour réinsister en dehors.
Copes.
Ouais, c'est mon oncle, ça a dit. Ouais.
C'est vrai.
Ouais, ouais.
Le Bruno Copes qu'on connaît ou
ouais, le Bruno, celui
non,
que
non, celui qu'on connaît pas.
Oh, voilà, non, mais parce que il pourrait avoir d'autres Bruno Copes, tu vois, enfin.
Non, c'est
celui-là. Il y en a plein qu'on connaît pas, mais c'est pas eux.
Voilà.
Ah oui, c'est celui que vous connaissez sans doute. Et moi aussi, c'est le même.
Si
je le connais aussi.
Ah, c'est cool ça.
Je le connais aussi. Ouais, donc tout ça pour dire, on s'est noyé avec cette école, la question.
Mais qu'est-ce que
Qu'est-ce qu'on fait d'autre?
Sinon.
Ah ben, entre autres. Mais ici, la période est plutôt tranquille. Non, à mesure, on n'a pas beaucoup de. Ni de militants, ni d'échéances électorales. Mais voilà, on a. Moi, avec quelques collègues. Enfin, quelques collègues, au sens. On a un parti, le Parti Atomique, à Mons. On s'était présenté aux élections communales en 2012, en 2014. On espère bien faire des voix à nouveau et continuer à embêter tout le monde dans des prochaines communales, c'est-à-dire 2018. Voilà, donc.
Le rendez-vous est pris
pour plus ou moins octobre 2018. Le Parti Atomique sera là au rendez-vous. Puis j'ai un groupe de musique également. Qui est le Warship Potemkin, on fait du blues et ici on n'a pas de date actuellement parce que notre bassiste vient d'avoir un petit enfant et tout ça, donc voilà, on prend un peu une pause.
Donc c'est donc une bassiste.
Non, enfin je veux dire lui, non, je veux dire les pères, mais il l'a quand même eu, ça fait qu'il a fait 50%, enfin si on veut, ça dépend comment on calcule, là aussi c'est comme le baromètre, ça dépend comment on calcule, mais on pourrait dire qu'il a fait 50%
grâce
du travail.
Grâce à l'association, on peut dire qu'il a fait.
Et voilà, exactement. Et donc voilà, on fait du blues et il ne faut pas hésiter à surfer sur YouTube ou sur Facebook, vous entendrez pas mal de nos chansons. Donc Warship Potemkin.
D'accord, super, c'est cool.
Voilà, ou le Parti Atomique.
Non, tiré du sous-marin russe.
Le sous-marin russe,
bateau,
un cuirassé. C'est un cuirassé, exact. Mais...
Je ne sais plus ce qui s'est passé.
Mais à pas confondre avec Docteur Rouge. Il y a un film. Ça, c'est tiré d'un film de Eisenstein, exactement.
Ouais. Très bon film. Il est vieux, mais il est très bon.
Très bien.
Ouais, un film muet qui raconte la mutinerie qu'il y a eu sur un cuirassé en 1917. Non, avant, pardon. Je ne sais plus, 1905, je crois, un peu après la guerre russo-japonaise, soit il y a une mutinerie assez communiste.
Il est sorti en 1903, juste après le film La Grève, donc ça doit être une révolte antérieure.
Oui, c'est 1902.
La révolte s'est faite après le film.
Ouais,
le
film est de 1920 quelque chose.
Non, c'était pas 20, c'est avant les 20, il me semble, ouais.
On vérifie.
Bref.
Travers cherche.
Cherchons.
Moi j'ai pas cherché.
On va chercher pendant qu'on meuble.
Et la semaine, il y a la grève, octobre et cuirassé Potemkin, mais je pense que c'est peut-être 12 du coup. Bref.
Non, je pense que c'est dans le noir.
Et le Titanic dans tout ça, non
hein. Ouais.
Le Titanic à la fin est cool. Voilà.
Ah, spoiler. Voilà.
Oh, le spoiler.
Oh mon dieu.
Voilà, moi j'ai
ah oui, il y a un Titanic 2 qui va. Pardon.
À la fin, Jack survit. Alors.
Et donc, Caroline.
Mais mes activités ne sont pas aussi intellectuelles que les tiennes. Baudouin, Bruno, Benoît, Baptiste. Non, moi, je continue à enseigner à l'extérieur, mais plus des maths. Je donne cours à des petits loulous qui veulent débuter l'équitation. Donc, j'en profite pour faire de la pub.
Ben
c'est
oui,
évidemment pas mon écurie. C'est l'écurie de Florence Franquet à Yon, qui s'appelle l'écurie du Bélian. On a aussi une page Facebook. Et voilà, je mets les petits loups en route pour les futurs concours de dressage et d'obstacles. Et voilà. Sinon, j'ai un beau frère qui joue de la musique, c'est Radio Fake. Et lui, il est bassiste. Donc, si tu cherches un bassiste, tu peux peut-être lui demander.
Sa femme n'est pas enceinte.
Non, ça c'est fait. Ça c'est fait, tu peux y aller.
Et je tiens à m'excuser du coup pour toutes mes conneries que j'ai dit parce que j'ai confondu Ziegertov et Eisenstein. Et Eisenstein, c'était dans les années 20, effectivement.
Et ben voilà.
Donc, voilà
alors,
je me suis
Thomas
trompé.
Reçoit la classe d'or.
Et voilà,
bah, non.
Et voilà, je suis un peu.
Non, ouais, pas,
j'ai
pas
confondu
du tout.
Ziegertov et Eisenstein.
Faut avouer déjà, est à moitié pardonné. Et puis c'est ça, les miracles d'Internet, c'est maintenant la réponse directe, quoi. On peut direct le savoir et d'office le doute est levé.
Bim. Et ça, faudrait peut-être le dire aux enfants, justement.
Ils le savent, t'inquiète. On a même un petit logiciel qui résout des équations du premier degré très facilement. C'est raté.
Le logiciel s'appelle raté.
Non, je sais pas comment il s'appelle, mais les élèves me l'ont déjà montré. Donc,
mais quand j'étais en secondaire, il y avait une application, tu prenais en photo ton équation et il la résolvait.
Ouais, voilà.
C'est cool.
J'aurais beaucoup aimé, j'avais pas d'iPhone à l'époque. Mais,
ma chance, c'est qu'il ne résout que les équations du premier degré, donc je peux pas toujours les attaquer sur le second.
En fait, je pense que pour revenir au cinéma, je pense que le film Idiocratie, c'est pas de la fiction, c'est de l'anticipation. Quoi. On va y arriver, quoi. Idiocratie, il faut regarder, surtout les 5 premières minutes, c'est magnifique.
D'accord, un film d'une heure trente qu'on regarde que 5 minutes.
Bah, c'est une comédie, le film n'est pas génial, mais dans la première partie, ils expliquent bien ce qui se passe. On voit des gens avec des gros QI qui réfléchissent avant d'avoir des enfants, pendant que les gens, on va dire, plus défavorisés
se reproduisent
ont
comme
déjà 4 enfants, 2 avec la voisine, 3 d'un mariage précédent, et on voit les arbres généalogiques évoluer, et puis après, voilà, le film part dans... Donc les gens très intelligents, très moyennement intelligents à l'époque actuelle se retrouvent dans le futur, je vous explique pas comment, et là ils deviennent les gens les plus intelligents du monde. Voilà, parce que le QI ne fait que baisser.
Super, ben voilà. Super,
c'est super ton histoire. Allez,
on va clôturer là-dessus. Merci à vous tous de d'être venus. Merci de nous avoir répondu.
Et dans le futur, tout le monde est animateur radio.
Oui, c'est ça.
Ou artiste.
Oui, c'est ça.
Et on se quitte enfin sur la sécurité de l'emploi des Fatal Picard.
Super.
Voilà. Allez, bisous à tous et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même Darman et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin en me voyant me dira: bande de feignants, alors vous êtes déjà rentré. Vous savez pas ce que c'est de bosser avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez bien moins qu'un facteur et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzé. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas: je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième. Il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raquer. Des 35 élèves cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel, Bette et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a vu voir chez Courbet, c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin, le même client, me dira: bande de fonctionnaires, alors vous êtes déjà rentrés. Vous savez pas ce que c'est bosser avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez moins qu'un contrôleur et dire que je paye pour mon gamin. Il a redoublé son CE1. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas: je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes de temps en temps, faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris, faut surtout pas les perturber. Les programmes faut les simplifier, y'a trop de leçons, ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin, vous le connaissez, me dira: bande de surpayés, vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chèque et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 Grand Marnier. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudra peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place, pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il l'avait averti, ils veulent pas le sport avant midi. Ils peuvent leur pas fumer en classe, et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour, une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi.